épisode de Protège ma promesse, notre podcast dédié au scoutisme. Nous continuons aujourd'hui notre saison historique avec Christophe Carichon, historien du scoutisme et auteur de Grandes figures du scoutisme paru chez Artege, pour aborder l'histoire des scouts unitaires de France, ou SUF. Bonjour Christophe Carichon.
Bonjour.
Les SUF sont-ils nés d'abord en réaction avec la réforme des Pioneer Rangers chez les scouts de France en 64?
Oui, c'est exactement ça. Alors il faut revenir quelques années auparavant. Dans les années après le Jamboree de 1947, les commissaires des scouts de France sentaient bien qu'il y avait une forme de lassitude, une forme de monotonie dans le scoutisme et avaient proposé de nouvelles idées. C'est en particulier, donc on l'a vu les fois précédentes, le commissaire national éclaireur nouveau, donc Michel Menu, ancien officier de renseignement, qui avait lancé une proposition Raider, la proposition Raider, le béret vert, les ailes, qui était un scoutisme assez élitiste, ou tout du moins un scoutisme de l'effort, pour garder à la troupe les garçons de 15 ans. Et puis, également, c'est lui l'inventeur des patrouilles libres, donc des foulards noirs, et également des cadres verts, donc cette idée d'aller chercher des jeunes adultes pour s'occuper du scoutisme, pour s'occuper des troupes qui manquaient de chefs. Or, justement, ces trois idées de Michel Menu ont donné un grand coup de fouet dans les années fin 40, les années 50 et le début des années 60 pour le scoutisme des scouts de France, le scoutisme catholique donc, et ces idées ont été aussi copiées chez les éclaireurs de France et puis les éclaireurs unionistes. Et au début des années 60, on sent une forme de un retour justement de lassitude. Le garçon de 15 ans ne reste plus à la troupe et il faut faire en sorte de le garder. Alors dans les années 30, il y a eu plusieurs modèles. Le modèle du chevalier, le modèle du trappeur. Dans les années donc 1950 avec les Raiders, le modèle du commando. Et là, le quartier général des scouts de France va... non pas proposer, mais imposer aux garçons le modèle du pionnier, du cow-boy, de celui qui domine la nature. Et c'est la base, vous l'a déjà évoqué Jean-Jacques Gauthier, de cette réforme Pioneer Rangers. Voilà. Donc la réforme Pioneer Rangers, c'est cette séparation en deux classes d'âge. Donc on sépare les petits des grands, il n'y a plus d'auto-éducation des grands sur les plus petits ou des plus petits par les grands, mais maintenant on met les 12-14 ans ensemble et les 15-17 ans ensemble. On abandonne l'uniforme traditionnel, donc l'uniforme avec le béret, le foulard, le short, pour passer à des chemises de couleur. Et puis, on abandonne aussi, ou on reformule plutôt, le texte de la loi de la promesse. Donc le scoutisme est complètement chamboulé dans ces années 63-64. Et des troupes vont, certaines vont faire l'essai, et puis d'autres vont refuser cette évolution et vont rester sur le système des patrouilles. Donc certaines vont tout de suite rester sur le système de patrouille et puis d'autres troupes vont faire des essais Pioneer Rangers et puis voyant que ça fonctionne pas pour leurs garçons vont repartir, si vous voulez, au modèle du système des patrouilles voulu par Roland Philippe et puis Baden-Powell. Et ces unités-là, enfin ces troupes-là qu'on va appeler unitaires, parce qu'elles gardent l'unité de la patrouille, donc les grands les grands s'occupant des petits, donc la patrouille traditionnelle qu'on trouve aussi chez les scouts d'Europe.
Et comment ces troupes unitaires vont-elles cohabiter avec les autres troupes des scouts de France?
Alors, au début, il y a une cohabitation qui se fait à peu près correctement. Vous savez, les premières chemises rouges sont arrivées au Jamboree de Marathon en 1963, et c'est une réforme qui a été faite en secret, à la différence de la proposition Raider, qui, elle, avait été lancée dans les revues. Mais là, c'est vraiment fait en secret, un peu de manière confidentielle, et puis les chemises rouges et les chemises bleues arrivent. Alors, la cohabitation dans les premiers mois ou la première année se fait à peu près correctement, mais très rapidement, le quartier général des scouts de France va être virulent contre, vis-à-vis de ces troupes qui veulent garder l'unité de la patrouille, avec des mots excessivement durs. Alors, même si François Lebouteux dira plusieurs fois, mais il n'y a aucune obligation de changer tout de suite, ça peut prendre 77 ans, je le cite, hein. D'autres commissaires Pioneer Rangers, donc commissaires, hein, vous vous souvenez, ce sont les grands chefs, si vous voulez, vont être beaucoup plus durs. À Moulins, par exemple, on va envisager froidement la suppression de toutes les troupes qui gardent le système traditionnel. En Bretagne, un commissaire Pioneer Rangers déclare lors de journées régionales, les troupes unitaires, on les fera toutes crever par asphyxie. Je cite là encore, hein, et le plus tôt sera le mieux. Donc, dans les années 66-67, il y a vraiment une lutte à mort contre les troupes unitaires, malgré des réunions. Il y a des réunions qui se font. Il y en a une à la Frette Montigny, par exemple. Donc, on invite les unitaires à venir dire pourquoi ils veulent rester comme ça. Et puis, on va les accepter à demi-mot. Mais l'objectif du quartier général est bien, en effet, de les étouffer. Et cela se sent tout simplement parce que, à la hutte qui, à l'époque, fournit les uniformes et les insignes, ben, on ne trouve plus d'uniformes et d'insignes. Dans les revues, la revue Scout, il n'y en a plus que pour les foulards rouges, pas les foulards rouges, les chemises rouges. Donc tout doucement, en fait, les unitaires en viennent à disparaître du paysage du scoutisme catholique.
Et donc quand et comment sont créés officiellement les SUF ?
Alors, François Lebouteux va être, donc qui est le grand chef des scouts de France, si vous voulez, va être remplacé en 1970 par Émile Xavier Visseau, qui lui est beaucoup plus, et encore plus virulent que Lebouteux. Lebouteux était quand même assez conciliant. Et les pourparlers entre les scouts de France réformés et les scouts de France unitaires vont finir par ne pas aboutir. Et en 1971, environ une cinquantaine de chefs des scouts unitaires, enfin de scouts de France unitaires, majoritairement des Parisiens, vont décider une assemblée constitutive des scouts unitaires de France. Alors, les scouts de France leur permettent quand même de garder la croix potencée, ce qui n'est pas le cas des scouts d'Europe, hein, vous le savez bien. Donc leur permettent de garder la croix potencée de Jérusalem, la croix rouge, où le lys va quand même être différent puisqu'il est blanc et noir. Et puis, on leur permettra aussi plus tard, enfin le père Jean de Bruyne acceptera que les Jeannettes, donc les petites filles, s'appellent toujours Jeannette et non pas Louvette, comme aux scouts d'Europe ou aux Europa Scouts, et gardent la pédagogie donc de Sainte-Jeanne d'Arc, la pédagogie de la forêt. Voilà. Et donc en 71, on peut dire que tout est consommé et que la fracture est définitive entre les scouts unitaires de France, enfin les nouveaux scouts unitaires de France et puis les scouts de France. Beaucoup de grands chefs ou beaucoup d'unités avaient aussi rejoint avant, parce que la lutte a quand même duré près de 10 ans, entre 63 et 1971, avaient rejoint les scouts d'Europe. Ou alors un nouveau mouvement aussi disparu aujourd'hui et englobé dans les scouts unitaires dans les années 1980 qui s'appelait les scouts Saint-Georges. Voilà. Mais donc ceux qui restent, alors majoritairement des troupes parisiennes quand même et puis des troupes de province quand même, hein, quelques troupes de province à Rennes, à Quimper, à Perpignan par exemple, eh bien rejoignent les scouts unitaires de France. Un tout petit mouvement au début, puisqu'ils vont être en 71, ils se comptent environ 500. C'est quelque chose de très familial.
Dans votre livre « Grande figure du scoutisme », donc je le disais, publié chez Arthège, vous consacrez un chapitre à Pierre de Montjamon, donc premier président des SUF. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette figure et quel a été son rôle au sein des SUF ?
Pierre de Montjamon est un grand chef des scouts de France, quelqu'un d'assez exceptionnel. Il était né en 1907. Son père était un officier d'infanterie, mort dès les premiers combats de 1914, et il avait il habitait à Bourg-en-Bresse, et après la guerre, il était rentré au scout de France. Il a été un des premiers scouts de France puisqu'il a prononcé sa promesse à 14 ans en 1922. Et en grandissant, il a gravi également les échelons du scoutisme. Il est devenu chef de troupe, et puis surtout, il a rencontré le père Jacques Sevin, qui a eu énormément d'influence sur lui. Le père Jacques Sevin l'a d'ailleurs intronisé l'un de ses assistants à Chamarande. Quand le père Sevin a été chassé du mouvement en 1933, c'est Pierre de Montjamon qui a pris la direction de Chamarande, avec Pierre Delsuc également. Voilà donc un personnage qui a été à la source du scoutisme catholique. Il a été aussi un de ceux qui avait été choisi par le père Sevin pour être un des membres de l'ordre scout qu'il avait en gestation dans les années 1930. Mais bon, Pierre de Montjamon n'est pas rentré dans les ordres. Il s'est marié avec une cheftaine de Louveteau, Rosaine de la Villéon. Et puis, dans le civil, il était au grand dam d'ailleurs de sa mère, qui ne voulait pas qu'il embrasse la carrière des armes. Il avait fait HEC et il était rentré quand même comme officier dans le train. Et c'est à ce poste, donc comme capitaine du train, qu'il fera la guerre de 40. Parallèlement, juste avant la guerre de 39-45, il est un des fondateurs des équipes Notre-Dame avec d'autres camarades officiers. Donc après la campagne de 40, il n'est pas fait prisonnier et il va s'engager dans la politique nouvelle de l'État français, tout du moins au service de la jeunesse, puisqu'il va être un des animateurs de ce qu'on a appelé les chantiers de la jeunesse française. Songez que la dernière classe appelée au service militaire en 1940, n'ayant pas rejoint les armées, puisque les armées se sont disloquées, s'est retrouvée laissée à elle-même, et pour ne pas qu'elle tombe dans les mains des Allemands aussi, le gouvernement du maréchal Pétain avait lancé cette idée des chantiers de la jeunesse ou de jeunesse et montagne pour ramener les jeunes Français dans la nature, si vous voulez, avec des camps d'éveillés. Donc c'était très inspiré du scoutisme. Et le chef des chantiers de la jeunesse française, le général de la Porte du Teil, qui connaissait bien Pierre de Montjamon, était lui-même un ancien commissaire des scouts de France en Île-de-France. Alors Pierre de Montjamon va se lancer là-dedans, dans cette aventure des chantiers de la jeunesse, mais également très vite dans la résistance, comme beaucoup d'officiers des chantiers de la jeunesse française. Il est membre de l'organisation de résistance de l'armée, et en 1942, il rentrera dans la clandestinité et sera un des plus célèbres maquisards du Vercors, puisqu'il s'occupera de la logistique dans le Vercors jusqu'à la destruction du maquis par les Allemands, et puis ensuite il rejoindra la première armée française jusqu'à la libération de l'Autriche. Donc déjà, c'est une grande figure scout, c'est une grande figure militaire, et puis qui continuera d'ailleurs sa carrière à l'étranger, particulièrement à l'OTAN, et qui terminera donc général de corps d'armée. Hein, sa fille me disait qu'il est certainement le seul élève d'HEC à avoir terminé général à 4 étoiles. Donc voilà, et c'est en 66 qu'il quitte l'armée, et pour lui le scoutisme est un beau souvenir, a marqué sa vie, mais il n'envisage à aucun moment reprendre le scoutisme. Sauf que, avec plusieurs de ses amis, Henri d'Avernas, Pierre Delsuc et Michel Menu, ils se connaissent tous, hein, eh bien ils constatent que leur mouvement est en train de se désagréger, que ça n'a plus rien à voir avec le scoutisme du père Sevin, et il va se lancer il va s'opposer lui aussi du fond de sa retraite, qu'il voulait tranquille, à cette évolution du scoutisme. Et avec les personnes dont je vous ai parlé, ils vont écrire un livre, un petit livre qui s'appelle Les bases fondamentales du scoutisme, qui va servir de référence aux jeunes chefs unitaires qui manquent un peu peut-être de fonds scientifiques, si on veut, sur le scoutisme. Donc, base fondamentale du scoutisme, qui est un livre à lire, à relire, parce que tout est dedans. Et Montjamon va être, un peu malgré lui, mais va accepter le poste de président des scouts unitaires de France, qu'il va tenir pendant 5 ans. Et c'est extraordinaire, ça, pour les SUF. Et il faut que les SUF s'en souviennent que leur fondateur, enfin leur premier président plutôt, était quand même le fidèle du père Sevin. C'est le père Sevin qui les a mariés, c'est le père Sevin qui lui a appris le scoutisme catholique. Et donc il y a une filiation certaine entre le premier scoutisme, en tout cas le premier scoutisme des scouts unitaires de France, et le premier scoutisme des scouts de France, grâce à Pierre de Montjamon. Et puis après 5 ans, bon, Pierre de Montjamon va quitter et puis va s'occuper de son jardin, comme dirait Voltaire.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des autres figures fondatrices des SUF ?
Oui, alors je crois qu'il faut... Alors, il y a eu beaucoup de gens, Monseigneur Jean Rupp, par exemple, qui a soutenu les scouts unitaires de France, comme il avait soutenu les scouts d'Europe ou les scouts Saint-Georges, d'ailleurs. Également le chanoine Ancel, à Paris. Je pourrais citer très personnellement le père Jean-Yves Lemoigne à Quimper, donc l'une des premières troupes des scouts unitaires de France, qui devrait fêter ses 100 ans l'an prochain, puisque c'était une ancienne troupe des scouts de France. Donc, beaucoup de personnalités locales locales, si vous voulez, qui sont battues et qui sont battues contre le clergé, qui sont battues contre les scouts de France. Parce que c'est une époque, dans les années 71, 79, 80, où on ferme l'église aux petites meutes de louveteaux qui veulent aller à la messe, où on met... où on voue aux gémonies tous les membres des scouts unitaires de France qui sont complètement dans l'Église pourtant parce qu'ils ont désobéi au seul mouvement reconnu par l'Église. C'est également le cas pour les scouts d'Europe. Autre grande personnalité qu'il faut citer, c'est Bernard Mantienne qui sera lui aussi président des scouts unitaires. À l'époque, c'est un jeune chef raider. Il a commandé sa troupe à Massy et puis dans l'Essonne. Il deviendra plus tard maire de Verrières-le-Buisson et sénateur de l'Essonne. Donc quelqu'un d'assez assez attachant aussi, Bernard Mantienne, qui a vraiment lancé les scouts unitaires de France sur la voie du développement. Hein, je vous ai dit, ils ont commencé à 500, mais dans les années 85-86, ils seront environ 10 000 déjà, donc ça va aller assez vite. Et puis, du côté des filles, il faut citer Marouette Potez, Leclerc, qui, elle, sera la première guide, parce que, pour l'instant, on a parlé des garçons, en effet, les garçons, et c'est assez amusant parce que ça, on a l'impression de retomber dans les années 1920. Le scoutisme a commencé, donc vous l'avez vu avec Jean-Jacques Gauthier et le père Combeau, donc dans les années 1920 par les garçons, et puis ensuite les filles veulent faire comme leurs frères. Et c'est ce qui s'est passé, les guides de France ont été fondés en 1923. Et bien là, c'est la même chose qui se passe en 71. Les garçons rentrent dans les scouts unitaires de France, et puis ben, les filles, elles disent, ben, et nous alors? Et nous alors? Et assez rapidement, donc Marouette Potez va être à l'origine des guides de France, donc des guides unitaires, ou plutôt des guides faisant partie des scouts unitaires de France, qui vont elles aussi adopter la pédagogie traditionnelle du scoutisme, et puis l'uniforme traditionnel. Les scouts unitaires sont en beige, hein, vous les voyez, tout en beige comme dans les années 50, et les guides des scouts unitaires de France, elles sont toutes en bleu marine et elles reprennent en ce sens l'uniforme des anciennes guides de France qui ont toujours été toutes en bleu marine. Le bleu ciel des scouts d'Europe, en fait, est une coquetterie qui vient de la fondatrice des guides des scouts d'Europe, la femme de Périgue Géraud-Quéraud, donc qui s'appelle Lysique Lucienne Géraud-Quéraud, et elle était une cheftaine de louveteaux. Donc elle trouvait que le bleu marine était trop triste, c'est aussi simple que ça. Hein. Et donc elle a gardé le bleu ciel des cheftaines de louveteaux. Et c'est la même raison qui a fait que ce sont des louvettes aux scouts d'Europe, et non pas des Jeannettes comme aux scouts unitaires de France, parce que elle était ancienne cheftaine de louveteaux. Elle trouvait que les Jeannettes, c'était un peu gnangnan. Donc elle a inventé cette pédagogie louvette. Voilà. Donc il faut citer en effet ses premières guides de France à 14, guides unitaires, pardon, à 14-15 ans, qui aussi se sont lancés dans l'aventure. L'aventure, c'était vraiment le maître mot de ce scoutisme unitaire.
Et les unités n'ont jamais été mixtes. Elles ont toujours...
Ah non, jamais. Les groupes sont coéduqués. Hein, il y a des donc au scout d'Europe, hein, vous savez, il y a des groupes masculins et des groupes féminins. Au scout unitaire de France, c'est entre les deux en fait, c'est entre les scouts de France et les scouts d'Europe, c'est-à-dire que les groupes accueillent des unités féminines et des unités masculines sous la direction d'un chef de groupe ou d'un couple aujourd'hui. Chef de groupe.
Quelles sont les spécificités pédagogiques des SUF par rapport aux scouts de France d'avant et puis aux autres mouvements qui les entourent ?
Alors, ce que je veux vraiment préciser, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie SUF. Ça, c'est de la com. Il n'y a pas de pédagogie SUF, il n'y a pas de pédagogie scout d'Europe. Ce qui existe, en revanche, c'est la pédagogie du scoutisme catholique. Donc, quelle ce soit une pédagogie réformée, comme celle des scouts et guides de France, ou que ce soit une pédagogie traditionnelle. Mais parler de pédagogie SUF, c'est un non-sens absolu. Là, il y a une pédagogie scout, en effet, qui est le système des patrouilles, qui est le scoutisme du Père Sevin, de Paul Cause, de Macedo, et puis une identité catholique. Mais il n'y a pas... En revanche, ce qui existe, c'est un esprit SUF. C'est un esprit scout d'Europe. L'esprit SUF, au début, c'est un esprit... les SUF aiment toujours, j'imagine, les petites béatitudes. C'est-à-dire que les SUF ne se prenaient pas vraiment au sérieux. Ce que voulaient faire les SUF, c'était vraiment du scoutisme, simplement. Et du scoutisme simplement au niveau des groupes locaux. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de hiérarchie verticale pesante au Scout Unitaire de France, mais il y avait des groupes avec des chefs de groupe. Donc, une forme de décentralisation, d'une part, hein, pas comme au Scout d'Europe, ni comme au Scout de France, avec des commissaires par-ci, par-là, de districts, de provinces ou de territoires chez les France. Également, donc de la simplicité. Donc on garde l'uniforme beige, d'accord, mais on se rend pas la tête, si vous voulez, au Scout Unitaire de France. De la souplesse, la volonté d'être le plus possible dans la nature, et également, beaucoup de, un mot à la mode, mais beaucoup de bienveillance. À mon avis, tout ça c'est un peu perdu parce que les Scouts Unitaires ont été vite team et de leur succès, hein, ils sont aujourd'hui plus de 35 000, donc forcément la centralisation, les directives du centre national sont devenues, et sûrement avec raison, hein, sont devenues beaucoup relativement pesantes pour certains groupes locaux. Donc je pense que voilà, donc je redis bien, il n'y a pas forcément de pédagogie SUF, mais il y a un esprit. C'est sûr que l'esprit SUF, c'est pas l'esprit Scout d'Europe, hein, c'est pas l'esprit de forcément de Vézelay, ni du Puy-en-Velay. Voilà, c'est plus celui de Chambord où ils le font régulièrement leur anniversaire. Il suffit de regarder d'ailleurs les calendriers, hein, les calendriers des scouts unitaires, c'est vrai, sont toujours assez marqués par beaucoup de joie, beaucoup de sourires. Je dis pas que les autres n'en ont pas, hein, mais ça représente à peu près assez largement donc cet esprit SUF, fait de simplicité et puis d'ouverture, en tout cas.
Pour terminer, on peut donner peut-être quelques chiffres sur le mouvement, ce qu'il représente aujourd'hui, même des éléments plus généraux.
Alors, on a des. Donc, je vous ai dit environ. Environ 35 000 adhérents, d'après les chiffres donnés en tout cas par le Centre national des scouts unitaires de France, 230 groupes, dans les villes, dans toutes les villes, hein, les grandes villes et les villes plus petites, des groupes qui sont très paroisse de centre-ville, très marqué, il faut le dire quand même, beaucoup plus marqué en tout cas que les Scouts d'Europe et les Scouts de France socialement. On critique souvent les Scouts de France, mais il n'empêche que les Scouts de France recrutent aux marges. Ils recrutent des enfants, beaucoup plus en tout cas, qui sont en bordure de l'église ou qui ne connaissent pas. Les Scouts d'Europe aussi, hein, ont des. Les Scouts d'Europe et les Scouts. Et les scouts de France ont des ouvertures sur les banlieues, par exemple. Chose que les scouts unitaires ne font pas. Les scouts unitaires sont devenus des groupes de paroisses, des paroisses de centre-ville, des paroisses, on va dire, bontin, si vous voulez. Mais c'est un mouvement qui est en pleine explosion, numérique, hein, puisqu'ils ont quasiment dépassé les scouts d'Europe, enfin, où ils sont au coude à coude. Bon, les chiffres, hein, sont ce qu'ils sont. Mais cela dit, aujourd'hui, on ne peut plus mentir sur les chiffres, puisque tout est informatisé. Voilà. Avec des scouts unitaires qui ont fêté, donc, l'an dernier, avec un an de retard, donc, leur 50e anniversaire à Chambord, sous la tempête, sous la pluie. Ça a d'ailleurs été une très, très belle image, parce que je pense que ça a donné une image du scoutisme excessivement positive, de voir tous ces enfants, bien élevés d'ailleurs, joyeux, chantant sous la pluie. Au même moment, il y avait les pèlerinages de Chartres d'ailleurs, qui étaient aussi sous la pluie et qui chantaient aussi. Mais c'est vrai que ça a donné une très belle image du scoutisme, parce que vous savez que depuis quand même quelques dizaines d'années, le scoutisme a, et je vous remercie de faire ces podcasts, a quand même beaucoup souffert du film de Gérard Jugnot, des affaires, de tout ce qu'on veut. Voilà. Mais les scouts unitaires sont aujourd'hui, je pense, un mouvement en pleine expansion, en pleine dynamique, et un mouvement très positif qui ne demande qu'à s'étendre encore et encore.
Eh bien, merci beaucoup, Christophe Carichon.
Merci à vous.
Pour tous ces éléments sur l'histoire des SUF. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode pour continuer cette saison historique de notre podcast Protéger nos classes.